France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Filmer la corrida, comment et peut-être surtout pourquoi? On en parlera à partir de 13h avec mon invité, le réalisateur Albert Serra, qui signe Tardes de Soledad, un documentaire sur le torero Andrés Roca Rey. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critique. Deux films qui sortent aujourd'hui sur les écrans sont au menu. The Alto Knights de Barry Levinson avec deux Robert De Niro pour le prix d'un et un premier film argentin à la forme très intrigante. Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté de Hernán Rossi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les midis et bienvenue aussi aux critiques du jour, Lucille Como, critique et chroniqueuse du regard culturel à la matinale de France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour Guillaume Aurignac, cinéaste et critique de cinéma.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Et on commence donc avec ce drôle d'objet réalisé par Barry Levinson, The Alto Knights. Drôle d'objet parce qu'il est dans les tuyaux depuis des années sans jamais avoir été finalisé jusqu'ici. Et c'est une histoire vraie et bien connue aux États-Unis, la tentative d'assassinat du chef mafieux new-yorkais Frank Costello, commandité par son rival Vito Genovese. Le coup s'est produit dans les années 50 et a conduit Costello à se retirer des affaires. Le scénario est signé d'un homme qui s'y connaît quand il s'agit de mafia, Nicolas Spileggi, à qui on doit Les Affranchis et Casino notamment. Et le rôle-titre est joué par quelqu'un qui lui aussi a l'habitude de ce milieu puisque c'est Robert De Niro. Mais attention, Bob, 81 ans, joue les deux rôles-titres, les deux parrains. Qu'est-ce que ce procédé peut bien donner? On va voir ça. Mais d'abord, un avis rapide, Lucille Como.
Un avis rapide, ça va être compliqué parce que j'ai eu deux visions du film. Une première qui était apparemment erronée au vu de ce que vous venez d'en dire, c'est-à-dire que c'est un vrai film de mafia. Et une autre vision qui était la farce, quoi.
La farce. Guillaume Aurignac.
C'est une sorte de version réactualisée du parrain, mais tendance croûte numérique avec un portrait sur la défiguration de De Niro.
On va regarder, pardon, on va écouter bien sûr la bande-annonce de The Alto Knights de Barry Levinson.
Where do I start? You're going down a very dangerous road. And we ain't been down dangerous roads before. But that's the risk you take. Me, I take
that. Yeah, but you're
risk.
Not where I am. I give to charities, I pay my taxes.
Let's remember something. I put you where you are today. It's because of me, Mr. Good Citizen. You want to be like them? Come on, you ain't like them. They own this country.
C'est des gros bonnets, on fera jamais le poids. Et toi, un coup t'en es, un coup tu sors, t'es dans le crime à mi-temps. Tu peux pas jouer sur les deux tableaux. Où t'en es? Où tu sors?
Vous avez forcément vu le tireur.
Le type a tiré sur son propre patron!
Vous avez grandi ensemble.
Franck a parfois tendance à oublier d'où il vient.
Tu es du genre à démarrer au quart de tour.
Vaut mieux tuer pour de bon.
Je veux pas faire trop de bruit.
Trop
c'est
de bruit
pas...
C'est un flingue du con.
Oh là là, The Alto Knights de Barry Levinson.
Non mais en fait, il mieux le voir en français. Je pense que le voir en français avait peut-être plus de sens que le voir
mais
en
alors...
anglais.
Lucille Como, donc deux visions, deux films possibles. Oui. Le vrai film de mafia ou la farce, vous préférez lequel en fait?
En fait, le problème, c'est qu'il y a un peu ni l'un ni l'autre. Alors, non mais en vérité, moi, quand je suis allée voir le film, je savais qu'une seule chose, je savais que De Niro jouait deux personnages différents. Et en général, quand ce procédé advient, ce qui est déjà arrivé dans les films, c'est pour créer quelque chose. Ça peut être quelque chose de drôle, parce qu'évidemment, il y a un effet burlesque à voir deux personnages joués par la même personne. Ça peut être un effet fantastique. Ça peut être un peu rigolo, disons, au moindre des choses. Là, le problème, c'est que ça n'est strictement rien. C'est qu'on a l'impression que juste, il n'y avait personne d'autre dans le casting pour jouer l'autre personnage. Donc, De Niro jouant deux personnages, déjà, ça ne sert à rien. Donc au début, j'ai été, pendant un quart d'heure, je me suis dit, bon, forcément, il y a quelque chose de burlesque là-dedans, parce que comme c'est assez ridicule à regarder, comme le disait Guillaume, c'est une croûte. Je dirais même pas que c'est une croûte, parce qu'à la limite, une croûte, il y a quand même de la matière. Là, il n'y a pas beaucoup de matière. Donc pendant un quart d'heure, je me suis dit, forcément, il va y avoir un retournement de situation, il va y avoir un truc formel qui va se passer dans ce film. Ce n'est pas possible que ce soit un film de mafia au premier degré. Or, comme vous l'avez décrit, puisque la genèse du film est celle-là, c'est-à-dire... C'est une matière historique, c'est documenté. Le scénario est signé par un grand spécialiste de la mafia américaine. Le tout est filmé par un réalisateur qui a déjà fait des films de mafia. C'est un film de mafia, apparemment, au premier degré, donc avec exactement tout ce qu'on trouve dans les films de mafia. Sauf que comme on a déjà vu 50 000 films de mafia, on sait exactement comment ça va se terminer. On sait exactement comment toutes les séquences vont se terminer. On sait très bien que quand un type va chez le barbier, qu'il y a de la musique, qu'il garde sa bagnole devant et qu'il dit « reviens dans une heure », a priori, ça va pas hyper bien se passer pour lui. Eh ben, non, ça arrive exactement de la manière dont c'est supposé se passer. Et la femme du mari en question réussit quand même à dire après « Vous vous rendez compte ? On peut même plus aller chez le barbier tranquillement. » Non mais, je veux dire, il y a quand même un truc incroyable à refaire ce genre de film aujourd'hui sans aucun second degré, parce que je crois pas qu'il y en ait. Ou alors, c'est une ironie qui est presque malsaine. C'est-à-dire que si le film de mafia est en train de s'enterrer lui-même au premier degré, alors là, moi, je ne sais plus, Hollywood, c'est fini, enfin, on arrête, quoi.
Guillaume Aurignac.
Oui, alors, c'est effectivement un film de... Pour moi, c'est vraiment du premier degré, et c'est vraiment le tour de piste des vieux papis qui ont décidé de montrer aux jeunes que ça valait encore le coup de faire des films de mafia. Le problème, c'est qu'il est évidemment complètement arthritique, ce film, enfin, c'est une catastrophe. Lucille parlait de la scène du barbier, moi, à un moment, je me suis dit, ils ne vont pas la faire, ils vont nous surprendre. Mais non, pas du tout, ils la font vraiment. Donc, ils accumulent les clichés, alors avec une certaine efficacité, parce que Barry Levinson, c'est pas un mauvais bougre, hein. C'était un bon cinéaste des années 80, un bon ouvrier d'Hollywood.
Ouais, Donnie Brasco.
C'était pas Donnie Brasco, mais c'était Bugsy. Sur Bugsy Siegel, ouais. Voilà, mais Rain Man, Good Morning Vietnam, il a été connu quand même, Barry Levinson. Il a fait des succès. Mais là, vraiment, cette espèce de film de mafia au premier degré, et en fait, moi, je ne savais pas que De Niro jouait les deux
rôles.
Ah,
c'était l'inverse.
Je ne le savais pas. Et donc, je m'en suis douté assez rapidement quand même. Mais la vraie surprise, c'est le premier rôle. Alors, le rôle principal qu'il joue, c'est celui de Frank Costello, qui avait inspiré d'ailleurs Vito Corleone dans Le Parrain de Coppola. Et quand je le vois, je me dis, mais qu'est-ce que... C'est quoi? C'est le visage de De Niro, ça? Ou qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, évidemment, il est ultra maquillé. Il y a une espèce de maquillage numérique aussi. Et c'est pour ça que je parle de croûte, littéralement de croûte numérique. C'est-à-dire qu'il y a, une sorte de matière sur le visage de De Niro et sur les deux rôles qu'il joue. De matière qui est un mélange de latex, de maquillage de poudre et de maquillage numérique. Et cette matière-là fait qu'on a une sorte de défiguration, de Niro. Et qui alors m'a rappelé un film qui n'est pas très éloigné de ça, mais qui pour le coup est très très réussi. C'était Via Richman de Scorsese, où De Niro aussi jouait un vieux mafieux. Et on avait fait un procédé, comme il y avait des flashbacks, un procédé de de-aging, qui consiste à le rajeunir numériquement. Le procédé était assez raté, je dois dire, et amené sur un territoire qu'on appelle la Uncanny Valley. Alors c'est un concept qu'on a employé pour les robots humanoïdes, anthropomorphes, où en fait un petit détail fait que ça n'est pas tout à fait réaliste, et ce petit détail fait qu'en fait la ressemblance humaine s'effondre, mais s'effondre avec une idée que c'est à la fois humain et inhumain, et donc ça fait un monstre. Et c'est exactement ce qui se passe sur la représentation de Niro de ses vieux rôles de mafieux aujourd'hui, c'est qu'il est littéralement monstrueux. Il y a quelque chose...
Ça pourrait produire quelque chose, ça.
Mais oui. Alors, ça produit quelque chose, c'est un paradoxe, c'est qu'on a l'impression que De Niro, pour jouer sa vieillesse, se coule dans des masques numériques, des masques de vieux, comme si c'était un moyen pour lui de continuer à être un acteur alors qu'on ne voit plus que De Niro. C'est le problème de De Niro, c'est le problème de tous ces grands acteurs. À un moment, ils n'apportent qu'eux-mêmes dans un rôle et on ne voit plus le rôle, on ne voit que l'acteur jouer. Et alors lui, il pense résoudre ce problème-là par cette défiguration-là numérique. Mais le problème, c'est que ça crée une sorte de figure monstrueuse. Alors là, qui est dédoublée en plus, une figure monstrueuse et dont on ne voit derrière que la mécanique de Niro. C'est-à-dire qu'on voit que les tics de Niro. Et on arrive à à cet endroit-là de sa carrière où il ne joue plus que des pantomimes, il ne joue plus qu'une caricature de De Niro derrière un masque de monstruosité. Et c'est à la fois, je dirais, l'intérêt du film, ce côté peut-être un peu passionnant, et en même temps que je trouve absolument terrifiant dans le film.
Mais moi, j'aurais aimé être terrifiée parce qu'au moins, j'aurais ressenti quelque chose. C'est-à-dire que cet effet de l'uncanny valley dont vous parlez et qu'on peut voir dans certains films hollywoodiens qui, en effet, jouent leur propre mélancolie, jouent leur propre enterrement, il peut exister. Là, le problème, c'est que moi, je vois même pas le monstre. Je vois De Niro s'enterrant mal. Parce que De Niro s'enterrant bien dans un film un peu farcesque, dans un film qui surjoue typiquement la croûte ou la couche ou la surcouche, ça m'intéresse parce qu'au moins, il y aurait une forme de mélancolie. Là, par exemple, l'effet mélancolique qui pourrait être peut-être le seul effet qui advient à voir De Niro vieux, et pas que lui, parce qu'on peut en parler, mais il y a aussi beaucoup d'autres grands acteurs qu'on a vus dans des seconds rôles, dans des grands films de mafia, y compris dans Les Sopranos, donc on les retrouve 20 ans, 30 ans plus tard. Ça pourrait créer de la mélancolie. La mélancolie, c'est une émotion intéressante au cinéma. Et là, je trouve que justement, mais il faut quand même le faire, le film parvient même à nous refuser ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle artificialité, le film surjoue tellement son propre fétichisme qu'on n'arrive même pas à éprouver ni la pitié, ni la mélancolie, ni la terreur devant la monstruosité de ce double acteur. Pour moi, De Niro, là, il n'est rien. Je ne sais pas comment dire autrement. Il est rien.
Mais De Niro, donc, c'était pourquoi il a été choisi? Est-ce qu'on le sait pourquoi il joue ces deux rôles?
Mais parce que je pense qu'il y a vraiment l'idée de... Enfin, je sais pas, hein, j'ai pas les détails pourquoi ils ont joué ces deux rôles-là. Il y a l'idée de peut-être une dernière performance, tour de piste de cet acteur. C'est vraiment des vieux briscards qui ont décidé de... Alors, je sais pas comment Hollywood a accepté de faire un projet pareil. C'est un peu, pour moi, tout ça, c'est un peu de l'ordre du mystère. Mais sur cette question, évidemment que le film n'est pas... tout ce que je raconte sur ce film-là, ça se fait dans le dos de ses auteurs, dans le dos de ses créateurs et dans le dos de De Niro. Le vrai film qu'il a fait ouvertement et qui a magnifié cette espèce d'élan funèbre, morbide du dernier tour de piste de Niro, c'était Via Richman de Scorsese, qui ne filmait que ça, en fait. Le dernier souffle de ses vieux briscards. Là, le film se fait dans le dos du film. Et donc, quand je dis que c'est terrifiant, oui, c'est terrifiant parce qu'il y a... C'est triste, en fait. Mmh. On voit vraiment un acteur s'enterrer dans des couches de numérique. Mmh. C'est vraiment triste à voir.
Mmh. Et sur l'image de Levinson, dont on se souvient de Rain Man notamment, voilà, ce clinquant des années 80, qu'est-ce qu'on retrouve là?
Moi, je trouve ça très grossier. Je trouve le découpage mauvais. J'ai vraiment l'impression d'être devant un mauvais objet aussi, du point de vue de la mise en scène. Parce que, à la limite, un film de mafia très classique, refait selon les codes des années 70 ou des années 80, pourquoi pas, ça peut être divertissant. Mm-hmm. Ça peut ne rien apporter absolument d'un point de vue du genre, mm-hmm. mais ça peut être divertissant. Là, en plus, moi, je trouve ça assez laid. Et il y a une scène qui me marque de ce point de vue et qui, en plus, rejoint la question de l'enterrement. C'est une scène où, parce qu'il y en a trois ou quatre, je crois, et qui, évidemment, sont les grandes scènes attendues du film, où les deux De Niro, donc les deux personnages interprétés par De Niro se retrouvent, et il y en a une dans un funérarium où ils veulent être à l'écart, donc ils vont dans l'endroit où il y a des cercueils. Et c'est une salle octogonale avec des cercueils tout autour, ils sont au milieu, c'est éclairé au néon, c'est filmé dans une espèce de plongée vraiment laid, et je trouve dans la laideur de ce plan-là, il y a tout le film. C'est-à-dire, vraiment, on rate l'enterrement de De Niro, on le rate, quoi, vraiment, y compris d'un point de vue de l'image.
Et le film de genre, on va dire de mafia, c'est normalement aussi sont des films sur la violence des États-Unis, la violence de l'Amérique.
Ah bah alors là discours, on en est où? Ah là, discours de fin, c'est une catastrophe.
Pour le coup, le film rate complètement son sujet parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur cette espèce de dédoublement de personnages qui était le rapport entre la violence et la non-violence dans une activité criminelle et illégale. Il a complètement évacué ce problème-là. Il essaie de le rapatrier sur effectivement la violence qui est constitutive de la création de l'Amérique, mais il fait un discours à la fin là-dessus, c'est vraiment ridicule, voilà. Et surtout, il rate aussi la question familiale qui est vraiment allégorisé justement Coppola dans sa série Des Parrains.
Lucille Comeau.
Oui, c'est comme une espèce de rajout à la fin. En gros, le personnage de Frank Costello, qui est le seul à s'en être sorti, explique que eux, en tant qu'Italo-Américains, donc arrivés dans des bas quartiers du New York des années, on va dire 20-30, n'avaient que pour eux de corrompre les politiques et de devenir mafieux, parce que le capitalisme avait déjà tout pris. Ce qui est vraiment incroyable. Enfin, c'est presque cynique, parce que ça débarque, mais complètement à la fin du film. Le Le film n'a rien montré de ça. Mmh. C'est une espèce de truc qui s'est saupoudré, c'est une espèce de, d'opportunisme politique saupoudré en fin de film qui vraiment bah, n'arrange rien, quoi.
Bon, bah voilà, The Alton Heist de Barry Levinson, rhabillé pour l'hiver.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On change d'échelle et on passe du faste de l'âge d'or de la Cosa Nostra new-yorkaise à l'artisanat des paris sportifs clandestins de la banlieue de Buenos Aires. Le premier long-métrage de fiction de Hernán Rosselli porte un titre à rallonge, jugé plutôt quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté. Mais il est d'une honnêteté totale car Rosselli a pris un vieux matériau, des images d'archives amateurs, pour en faire quelque chose de neuf. Un film sur une troupe de mafieux argentins dirigée par une mère de famille. Quant à ce qui a été emprunté, bon bah nos critiques vont peut-être nous le dire ou pas. On verra ça. On commence avec un avis rapide, Guillaume Rignac.
Eh bah, ben c'est la version du parrain argentine, c'est-à-dire bricolée, allusive, pauvre mais toujours inventive.
Lucille Comeau.
Oui, très inventif, c'est peut-être aussi la limite. Bon, moi j'ai trouvé le film très beau, mais en fait il est tellement compliqué dans son dispositif et qu'il verrouille un peu tout.
On va écouter la bande-annonce qui est évidemment en espagnol, donc on va l'écouter en version courte, on va dire.
Y en principio mi viejo le decía que laburaba de cadete, pero mi mamá ya había escuchado que él levantaba quiniela. Mi vieja lo ayudaba con los números, siempre fue buena con los números. Entonces empezó a meterse en el trabajo.
Un negocio familiar que mueve mucho plata.
¿Qué pensás que puede pasar por el tema este, viste, que el juego, que lo están incorporando, el código penal? ¿Entonces nos pueden allanar?
Sí.
Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté de Hernán Rosselli. Guillaume Aurignac, on peut peut-être, je l'ai expliqué, mais un peu rapidement, reparler du dispositif de ce film.
Oui, alors le dispositif, c'est typiquement le dispositif d'un film argentin contemporain aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait...
Il faut tout ça.
Ben, l'anéantissement des aides publiques fait qu'ils ont du mal à avoir des budgets. Alors comment ils continuent à faire des films? Et en fait, ils vont tirer des images pauvres, des images documentaires, et les ramener vers la fiction, ouais, les tirer vers la fiction.
Des grands romans romanes, des grands, grands, grands films romanesques argentins. Bon, on y reviendra, mais... quand même.
Oui, mais aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Okay. Et ils vont les tirer vers la fiction, vers l'imaginaire, grâce à la voix off, grâce à une sorte de procédé littéraire. Alors là, ce que va faire Hernán Rosselli avec ce film-là, c'est qu'il est allé chercher des archives familiales, tournées en HI8, en DV, donc des archives pauvres, plutôt moches, très documentaires, qui appartiennent à une amie à lui, qui était sa voisine, et qui joue dans le film, qui joue son propre, alors on va dire son propre rôle, c'est son propre nom dans le film, et elle joue avec toute sa famille dans le film, sauf que il joue des personnages. Et donc ces archives-là, il va plaquer une voix off dessus, et ces archives vont, il va les tirer vers une fiction sur quel était exactement ce père disparu de cette jeune fille. Qu'est-ce qu'il faisait ? Alors on apprend très vite qu'il était bookmaker, qu'il organisait des paris illégaux dans une banlieue de Buenos Aires, et donc en fait que toute la famille de cette jeune fille est une famille de gangsters qui d'un seul coup, la mère, elle doivent s'occuper du travail, enfin du métier, reprendre le métier du père disparu, et alors que la police se rapproche d'eux. Donc voilà, il arrive à construire un film de parrain, quoi, un film de mafia à partir d'archives familiales très simples.
Mais il tourne aussi d'autres images actuelles.
Alors évidemment, il tourne d'autres images actuelles avec les membres de la famille qui vont tous jouer un rôle, tous jouer des mafieux alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et ce qui est très troublant en fait, parce que si c'était simplement l'idée de j'arrive pas à tourner, donc je vais prendre des archives familiales, j'invente une histoire avec ça, ça me permet de faire un film, bon bah ce serait très pauvre. Mais en fait ce qui est très troublant, c'est que ça produit quelque chose de très intriguant et de déstabilisant, c'est que en fait tout l'aspect romanesque, tout l'aspect imaginaire repose finalement sur ces images d'archives, alors que les images qu'il tourne, des images fictives qu'il tourne, finalement ressemblent à des images documentaires. Et cette espèce de paradoxe, de renversement, fait que le récit de film de mafieux devient une sorte de récit très prosaïque, très du quotidien, c'est-à-dire c'est la routine de la mafia. On compte, on a des situations, on compte les billets, on discute, on rencontre des concurrents, et même quand il y a le surgissement de la violence, c'est toujours un peu lointain ou alors un peu grotesque. C'est pas du tout sur une sorte d'imaginaire de film de mafia habituel. Il y a vraiment une sorte de prose, de quotidien, de routine machinale de tout ça, et que du coup l'imaginaire vient sur ces archives qui sont commentées, les archives familiales, qui était ce père. Et du coup il y a une intrigue sur le roman familial. Et du coup elle devient, le personnage féminin devient une sorte d'enquêtrice à la manière de ce que disait Roberto Bolaño des romanciers, ce sont tous des détectives sauvages. Elle est une détective sauvage sur sa propre histoire, sur sa propre origine. Et cette espèce de renversement va progressivement dessiner souterrainement dans le film un portrait féminin, un portrait de ce personnage-là qui, on va comprendre, est enfermé dans la routine, dans ce poids familial, ce poids des traditions, de la routine criminelle, et elle va essayer de s'en échapper. C'est ça ce que va finir par raconter le film. Alors, il le raconte pas de manière frontale, c'est un peu son problème, c'est que c'est très allusif, c'est par des petites scénettes, ce que je disais, très documentaire finalement, donc c'est très allusif, on comprend pas tout très bien, on le comprend progressivement par l'accumulation, et c'est ce qui me fait dire que c'est un remake carrément du Parrain, mais inversé, c'est-à-dire une sorte de buvard inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un grand film romanesque sur quelqu'un qui pris dans le poids familial, le poids criminel de la famille, et va finir par remplacer son père, c'est un tout petit film fabriqué, bricolé, qui raconte justement quelqu'un qui va refuser le poids familial et qui va s'en émanciper.
Lucille Comeau, ce dispositif à des limites, c'est ce que vous disiez.
En fait, il a des limites et en entendant Guillaume en parler, ça me fait aussi un peu changer d'avis, c'est-à-dire que je pense que sa complexité formelle, enfin la complexité du dispositif qui fait que là, pour le coup, quand on va le voir sans rien en savoir, on a quand même du mal à comprendre exactement ce qu'on regarde, parce que moi j'ai cru longtemps que c'était vraiment un documentaire, je me suis dit mais dis donc, ils sont forts, ils sont vraiment tout le temps là au bon moment,
c'est compliqué,
quand la police débarque et tout.
Vous.
Oui, mais en ce moment ça, oui, c'est un peu fatigué. Donc bref, j'ai cru longtemps à un film documentaire, donc évidemment on se rend compte de manière, parce que la narration est une narration que ça ne l'est pas. Mais bref, la complexité du dispositif, elle cache quelque chose qui est aussi une complexité, mais qui est plus dans la profondeur et qui est en effet que d'une matière familiale, c'est-à-dire des petits films où on voit concrètement une maman qui nage dans une piscine pendant des vacances, le mariage, une petite fille qui rigole, enfin des films familiaux comme on en a, je pense, tous. On réarrive à la fin à une question familiale aussi, et dont l'émotion, disons, est à peu près de la même nature. C'est-à-dire que le mystère de l'image familiale et de l'archive familiale, c'est ça, le sujet du film. Et en fait, il faut en passer par cette histoire romanesque de on transforme les personnages, et notamment le père, en personnages mafieux, pour réussir à parler quand même d'un secret, ou d'un mystère, ou d'un drame, ou voire même d'une tragédie, parce qu'il y a vraiment quelque chose de tragique qui se passe entre ces personnages-là. Donc c'est très émouvant. Mais cette émotion-là, il faut beaucoup écarter toutes les affaîtries et la complexité du dispositif formel pour la trouver. Et en effet, comme c'est très petit et que c'est très allusif, je pense par exemple à une scène de rencontre, bon, on peut le dire, en fait, la jeune fille qui est l'héroïne de cette histoire, elle cherche des informations sur son père qui était un bookmaker connu, elle va sur Facebook, elle arrive à craquer les codes de son ordinateur, elle trouve le nom d'une femme et de cette femme, elle trouve la photographie d'un jeune homme qui ressemble énormément à son père. Elle se met en contact avec lui, donc elle le rencontre. Et il y a quand même une scène de rencontre entre ces deux-là qui doit durer 1 minute 30, où il se dit quasiment rien dans une cuisine, en plus on est loin, on n'est pas absolument certain d'entendre ce qu'on entend. Et cette scène-là, c'est une scène de tragédie antique quasiment, sauf qu'elle passe en 2 secondes et c'est peut-être la grande scène du film. Et tout ce qui est autour, ces discussions de gros oncles qui jouent des capots dans des piscines en plastique, on compte de l'argent, mais bon, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup, on met un peu de poudre dans un sachet, mais bon, il n'y a peut-être que 2-3 sachets. Tout ça est nécessaire pour qu'on arrive à la question du secret ou de ce que ça veut dire une archive familiale ou ce que ça veut dire faire des recherches sur son père qui est mort jeune, parce que bon, clairement cet homme est mort jeune. Voilà, moi je trouve qu'il a eu aussi une chance incroyable, et ça il faut le dire, ce réalisateur, c'est la beauté de ses personnages, y compris la beauté physique, parce que ce sont deux personnages féminins qui sont au cœur du film, qui sont quand même très impressionnants, parce que c'est pas des acteurs professionnels, des actrices en l'occurrence. Et la jeune femme, elle est magnifique, vraiment, elle est magnifique à regarder. Et la mère, elle est incroyable. Dans les archives, elle est magnifique.
Très belle. Ouais.
Et à l'âge qu'elle a, au moment où on tourne et où elle devient cette espèce de mafiosa, quoi. Vraiment, il y a des scènes parfois de chant contre chant, telles qu'on en voit dans les grands films de mafia. Elle est incroyable. Et là, bon, c'est un peu un coup de bol, quoi. Il est bien tombé, le coco.
Guillaume Aurignac.
Alors, un coup de bol, c'est parce que je pense qu'il est le film est né de la vision des archives. Il a compris qu'il y avait une matière intéressante. Mais ça, c'est vraiment, pour le coup, le cinéma argentin qui fait son miel de n'importe quoi et qui se dit, tiens, là, je peux faire un film à partir de petites archives familiales à Chivite. Et c'est vrai que ça produit quelque chose qui est très beau. Je suis d'accord avec Lucie là-dessus. C'est en fait, à partir du moment où on a des archives familiales et on voit les personnages 20 ans après, on voit le trajet de la vie. Mmh. Et le cinéma sert à ça. Et c'est beau de voir quelqu'un évoluer dans la vie. Et on le voit de manière très naturelle, très simple dans ce film-là. Je trouve ça très élégant.
Vous parliez tout à l'heure de la difficulté du financement du cinéma argentin, mais c'est ce qui montre aussi, c'est la difficulté la nécessité d'une économie parallèle en Argentine aussi.
Oui, alors ça, il est très modeste là-dessus, hein, sur le discours sur la société argentine. C'est vraiment très allusif, mais effectivement, on comprend qu'en fait, c'est une société qui est quasiment effondrée depuis 15 ans, 20 ans, la société argentine. Et donc, les gens survivent dans l'illégalité. Les échanges de billets, c'est des dollars. Hein, et la dollarisation de l'économie argentine, on la voit.
Mmh. Lucille,
oui. Oui, puis on voit quand même, parce que là, j'ai presque eu l'air de dire que l'intrigue mafieuse n'avait pas d'intérêt, mais elle en a un, c'est de documenter justement cette tradition de la loterie et du jeu, qui est en effet du petit jeu,
Paris sportif,
comme le PMU, quoi.
Quoi,
voilà, où on va acheter des tickets et où on joue dans des tripots, quoi, vraiment littéralement. Et on voit à quel point cette économie-là, elle est vraiment à une lisière, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas des caméras de surveillance partout dans le pavillon qui est filmé, on pourrait avoir l'impression qu'ils ont un business quasi légal. En fait, on est vraiment tout le temps à la limite. On a l'impression d'une économie normale qui repose sur une pratique traditionnelle qui est quasiment de la même nature que la pratique religieuse ou les questions de superstition. On n'a pas parlé de ça, mais le titre, ça fait illusion à une tradition, je crois, américaine d'ailleurs.
Hein, c'est américaine, ouais.
Voilà, de mariage, où quand on se marie, il faut traditionnellement quelque chose de bleu, quelque chose d'emprunté, quelque chose de neuf et quelque chose de vieux pour que le mariage se passe bien. Donc bon, le titre était super pratique, mais c'est aussi, je ne sais plus du tout ce que je disais, si, c'est aussi une allusion à la question religieuse, rituelle, et ça donne de très belles images, ça aussi, dans le film.
Et donc c'était, je vais le répéter, quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté de Hernán Rosselli. Merci beaucoup Guillaume Aurignac et Lucille Comeau d'être venus dans les Midis de Culture. Évidemment, toutes les références, les infos sur ces films, c'est sur la page des Midis de Culture sur le site de France Culture.